soir, le 20 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du réfugié. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop, c'est le thème national choisi cette année. D'après les statistiques nationales, il y a près de 430 000 réfugiés congolais en Afrique et près de 150 000 réfugiés africains en RDC. Et le HCR affirme avoir rapatrié dans leur pays près de 208 000 réfugiés. Quelle analyse faire de la situation du réfugié? Nos invités sont Madame Germaine Bationo, représentante régionale adjointe du HCR. Madame Bationo, bonsoir. Professeur Banya Kouloapé, professeur de relations internationales et coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Professeur Banyakou, bonsoir.
Bonsoir.
Omar Kav, maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Kavota, bonsoir.
Bonsoir Larré, bonsoir Alé et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Merci à vous chers auditeurs internautes. Vous le savez, vous êtes le quatrième invité. Merci pour vos réactions. Koutou Adrako Dariwara en province orientale pour la RDC. Cette journée doit être une journée de méditation et de deuil car à cause de l'insécurité, le nombre de réfugiés ne cesse de croître et le sang des innocents coule jusqu'à ce que le pays ait la paix totale. Surtout à l'est. Louis Moulala de Kikwito Bandundu. Pour éviter cet afflux des réfugiés, il faut mettre fin à la guerre. Mais comment mettre fin à cette guerre qui est entretenue par les pays voisins? C'est la responsabilité de la communauté internationale. Merci d'être des millions à nous suivre à travers le monde grâce à RadioCapi.net.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Mercredi 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. C'est le thème national retenu cette année pour célébrer cette journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2001. Elle a pour but de sensibiliser l'opinion à la cause des réfugiés du monde. Les Nations unies aident ainsi les réfugiés à recommencer une nouvelle vie grâce à la réinstallation, au rapatriement librement consenti ou à l'intégration locale dans le pays d'exil. Le point de la situation des réfugiés dans le monde et en RDC, en particulier avec Jean-Pierre Elali.
Selon la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides, un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. D'après les derniers rapports du HCR, publiés le 18 juin 2012, 800 000 personnes ont été obligées de fuir leur pays et de traverser les frontières en 2011, ce qui a élevé à ce jour, selon la même source, à 42 millions et demi le nombre de réfugiés et déplacés internes dans le monde. Les pays d'où proviennent le plus de réfugiés sont notamment l'Afghanistan, la Somalie et le Soudan. La RDC accueille sur son sol 140 000 réfugiés alors que 430 000 de ses citoyens sont également réfugiés à travers le monde. À cet effet, plusieurs manifestations ont été prévues à travers la RDC. Déjà dimanche 17 juin dernier à Kinshasa, le HCR RDC a organisé une marche de 10 km de la gare centrale dans la commune de la Gombe à Limété. Une cérémonie officielle de cette journée aura lieu ce mercredi 20 juin au ministère des Affaires étrangères.
Merci Jean-Pierre Elali. Allons à présent sur terrain. La RDC compte sur son sol 140 000 réfugiés selon le dernier rapport du HCR. Mais les conditions de vie de ces personnes sont difficiles. C'est le cas pour ceux du Sud Kivu, principalement des réfugiés rwandais. Leur nombre varie entre 20 et 25 000 dans cette province et leur situation reste encore dramatique. Ces propos sont du HCR Bukavu en cette journée des réfugiés. 5 000 Rwandais ont récemment été enregistrés. D'autres dont le nombre n'est pas connu sont dans des régions difficiles d'accès. Mais le HCR et les autorités congolaises ne baissent pas pour autant les bras malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans leur prise en charge. On écoute Francisco Abdisson, chef de l'unité de protection au bureau de la sous-délégation du HCR à Bukavu, au micro de Delphine Amuto.
Mais ils sont dans des régions très reculées et affectées par des problèmes de sécurité. Par exemple, bon, on peut parler de Chabund, Kabar, Mouenga, Fizi aussi. Donc, c'est des zones où nos enregistreurs ne peuvent pas se rendre. Donc, c'est ça qui nous pose un problème. Maintenant, on a cartographié avec les autorités ces réfugiés rwandais. On va essayer d'ouvrir des couloirs humanitaires, de créer des points d'enregistrement où il pourrait effectivement se faire enregistrer et éventuellement se porter volontaire au rapatriement. Et il y a eu un mouvement de rapatriement assez important. L'année dernière, on a rapatrié presque 4000 réfugiés burundais. Cette année, le trend a baissé un peu parce qu'une partie de ces réfugiés burundais sont quand même très intégrés.
Madame Germaine Bationo, je rappelle que vous êtes représentante régionale adjointe du HCR. En RDC, l'accord de siège a été signé en 1975, principalement pour faire face à l'afflux des réfugiés de l'Angola et du Burundi. Doit-on considérer, madame, que c'est à ce moment-là que l'on a commencé à parler des réfugiés en RDC?
Je dirais oui et non. Oui, parce que effectivement. La présence du HCR en République démocratique du Congo remonte à cette période-là, à la période où par rapport à ce qui s'est passé en Angola, on a eu, enfin, avec les autorités ici au niveau central, le pays a reçu les premières personnes considérées comme des réfugiés. Donc, par rapport à ça, on dit oui. La réalité aussi, c'est que, bon, ça c'est de manière officielle, mais nous savons très bien que dans nos pays, en Afrique, partout, à cause des liens qui existent au niveau des frontières entre les populations de deux pays, mais qui ne sont pas, enfin, séparés par la frontière, il y a un mouvement spontané de personnes qui cherchent refuge et qui ne sont pas forcément connues des autorités centrales et qui font que la présence peut être avant cette date-là, mais officiellement, effectivement, on parle de 1975.
Alors, d'après les chiffres que le HCR a publié, que j'ai sous les yeux, on dénombre près de 88 500 déplacés internes. Quelle différence il y a entre un réfugié et un déplacé?
La différence elle est très simple. Vous pouvez rappeler encore le chiffre, vous dites combien de
88 500 déplacés internes.
À l'Est, vous voulez dire?
En RDC, voilà.
Non, en RDC, c'est pas 88 000. Aujourd'hui, en RDC, pour les déplacer, avec les chiffres que nous partageons avec les autorités et avec OCHA, qui est l'agence au niveau du système des Nations Unies qui coordonne un peu tout ce qu'on a comme chiffre de population. Aujourd'hui, en RDC, en tenant compte de la situation à l'Est, on parle de plus de 2 millions de personnes déplacés internes. Pas 80 000, mais déplacés internes. C'est un peu ça le chiffre officiel, si vous voulez parler des déplacés. Maintenant, la différence, quelle différence il y a entre un réfugié et un déplacé? La seule différence, c'est que le déplacé ne franchit pas la frontière. C'est la seule différence. Il reste, ce sont les mêmes problèmes, mais cette personne-là qu'on appelle déplacée interne est restée à l'intérieur justement de son pays, n'a pas franchi la frontière. C'est ça la différence.
Alors concernant les statistiques, il y a deux auditeurs qui posent des questions qui s'adressent à vous, Madame Bationo. Pacifique Mango de Lumbasho Katanga, quel miracle le HCR opère-t-il pour avoir les vraies statistiques des réfugiés alors qu'il n'y a jamais eu un jour sans l'arrivée d'un réfugié dans les camps et en particulier les Congolais de la RDC, Bin Saloum de Goma en Nord-Kivu. Je me demande pourquoi les réfugiés arrivent en RDC du jour le jour et s'ils arrivent au Congo, sont-ils vraiment identifiés tous par le HCR?
Bon, d'abord, il faut dire que physiquement, le HCR n'est pas présent aux endroits où on pense que les réfugiés peuvent arriver. Ça il faut réaliser cela. Et puis quand les informations sont portées à la connaissance des autorités d'abord et puis de nous, parce que depuis 75 nous sommes venus sur invitation des autorités, et par conséquent quand on déclare par exemple des chiffres ou bien on parle de réfugiés, ça ne se fait pas sans les autorités centrales. C'est ensemble que nous constatons le nombre de personnes. Il y a toute une procédure pour identifier les réfugiés. C'est d'abord les rencontrer, il y a les interviews, et ceux qui sont habitués et qui ont vu un peu les mouvements de réfugiés dans ce pays, que ce soit au niveau de l'Est, au niveau du Katanga ou un peu partout, la procédure ne change pas. C'est-à-dire qu'il faut écouter, enregistrer, et c'est toutes ces procédures-là qui permet à la fin de déterminer. Il y a ce que nous appelons la détermination du statut, mais ça dépend. Détermination au niveau des individus, mais quand et c'est là aussi au niveau de la définition, on prend par exemple pas la convention de 51 ni son protocole de 67, mais la convention de l'OIA par exemple, qui dit que si les personnes arrivent en groupe, on applique ce qu'on appelle la reconnaissance prima facie, qui dit compte tenu de ce qui se passe dans le pays, on considère que tout ce groupe qui arrive est réfugié. Mais n'empêche que pour des besoins de savoir combien les gens sont et comment organiser l'assistance avec les autorités et tous les partenaires, il y a des procédures qui permettent de savoir après écouter et voir comment on détermine le statut du réfugié. Et depuis la signature, peut-être aussi c'est bon pour de le savoir, la signature de la loi d'asile en 2002, cette procédure-là, c'est la responsabilité de l'État, pas la structure technique qui est la Commission nationale pour les réfugiés.
Prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous, Madame Bationo.
Robert Baham de Bukavu au sud Kivu. La situation des réfugiés en RDC comme partout ailleurs est déplorable et précaire. C'est en fait une situation à travers laquelle l'homme face à son semblable devient un loup. Pour tout dire, le réfugié est sous-humanisé, voire déshumanisé, au point où beaucoup de ses droits légitimes sont par exemple violés et foulés aux pieds.
Voilà, je vous prie d'excuser la qualité de cet élément qui n'était pas très audible. Je vais reprendre les grandes lignes. Il dit la situation des réfugiés en RDC, comme partout ailleurs, est déplorable et précaire. C'est en fait une situation à travers laquelle l'homme face à son semblable devient un loup. Pour tout dire, le réfugié est sous-humanisé, voire déshumanisé, au point où beaucoup de ses droits légitimes sont par exemple violés et foulés aux pieds. Madame Germaine Bationo, quelle est la situation du réfugié aujourd'hui? On a vu l'illustration avec Bukavu. Il n'est pas facile d'être réfugié.
Ce qu'il faut comprendre pour ce qui est du Congo, de la République démocratique du Congo, on a un présent sur le sol, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 150 000 réfugiés au niveau du Congo. Ce sont pas de nouveaux réfugiés. Ce sont des gens qui sont arrivés, et pour la plupart aujourd'hui, par exemple, quand on prend la grande majorité, on prend les Angolais qui aujourd'hui font l'objet du retour dans leur pays, et des Rwandais. Ce sont des populations, tout à l'heure vous avez vu, on a parlé de 75. Ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps. Donc ce ne sont pas des personnes qui arrivent. Quand les personnes arrivent, comme on peut le voir malheureusement un peu encore dans certains pays aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi un peu l'intervention du HCR par rapport à la célébration de la journée, c'est qu'on a de nouvelles zones de conflit, par exemple la situation du Mali, hier c'était la Côte d'Ivoire, la Libye, etc. Des personnes qui arrivent fraîchement et qui sont obligés de se retrouver à l'extérieur, donc ont besoin d'un apport, d'une assistance extérieure, automatiquement la communauté internationale, parce que on n'est pas seul, le HCR à l'invitation du gouvernement, mais il y a d'autres parties qui contribuent à assister. Donc quand on arrive fraîchement, effectivement il y a des dispositions qui sont prises et qui font que tout de suite on peut subvenir aux besoins immédiats. Ça c'est pour ce qui concerne les réfugiés pratiquement dans les pays en voie de développement et en Afrique principalement. Donc il y a cette phase là, mais aujourd'hui, au niveau de la RDC, ce sont pas des réfugiés qui viennent d'arriver, ce sont des réfugiés qui étaient là pendant un moment et donc qui, après un moment, vivent dans les mêmes conditions que le national congolais. Par conséquent, les difficultés que rencontrent aujourd'hui ceux à qui le gouvernement, par justement la loi d'asile de 2002, a donné la possibilité de vivre dans ce pays, se prennent aussi en charge comme les nationaux. C'est un peu ça la différence par rapport à ceux qui étaient là et ceux qui viennent et qui arrivent.
Professeur Banyaku Luapé, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales et coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Professeur, de votre point de vue d'internationaliste, peut-on dire que la question des réfugiés a des connotations politiques?
Oui, je pense que après les chiffres éloquents, la description que vient de donner madame, je crois que le problème des réfugiés, on peut le voir sous les trois aspects ou trois situations. Il y a la situation des tensions internes conduisant à la guerre civile, qui provoque nécessairement le mouvement de citoyens vers d'autres lieux plus sécurisants. Il y a les situations sociales extrêmement tendues sur le plan de la paix civile. Et ça, vous avez, par exemple, les guerres intercommunautaires, qui sont issues de problèmes tout simplement, soit des terres, soit des richesses à partager. Et enfin, il y a la situation des guerres entre États, comme la guerre d'agression que nous avons connue. Et si vous prenez les trois cas, vous trouverez que pratiquement nombreux États de la région de l'Afrique centrale ont connu toutes ces situations. Mais la particularité au Congo, et qui fait un peu la dimension un peu plus complexe, puisqu'il y a, comme on dit, la dimension de la tension due à la situation sécuritaire aux frontières. Nous avons 9 frontières, et vous pouvez vous expliquer bien que l'organisation de la sécurité des frontières n'est pas nécessairement une question de police, mais c'est une question de volonté, de conscience civique et finalement même de détermination un peu politique ou géopolitique. Il y a la situation des tensions dues à l'élargissement de la surface de participation politique ou de participation, comme on dit ici chez nous, au gouvernement. Et vous trouvez là, chaque fois qu'un groupe qui ne trouve pas un espace de pouvoir, généralement, il se déverse à l'opposition, et de l'opposition, ça conduit, s'il y a une complicité ou bien une facilité, ça conduit au départ des citoyens vers les pays. Il y a un troisième point, comme on peut appeler point focal des tensions. Il y a la démocratisation des pays, démocratisation des forces politiques purement internes. Et nous avons connu un certain temps, au début de notre démocratisation, de possible démocratisation, nombreux Congolais sont allés à l'étranger, ont été acceptés, soit comme exilés, ou tout simplement ceux qui ne veulent pas être politiques, ont été tout simplement des réfugiés. Et ça, cette situation, ça n'est pas particulier au Congo, c'est pratiquement partout. Et enfin, le quatrième point focal, c'est celui des transferts d'armes. Transfert ou transit d'armes. Vous trouvez cette situation qui devient un peu particulière au Congo, puisque depuis 1990, et ça s'est renforcé vers les années 2000, où il y a des réseaux entiers et qui se sont installés pour les transferts d'armes, soit des fournitures pour les groupes armés, soit des réseaux purement d'armes qui servent à l'échange et à d'autres biens et services dans la région. Voilà donc un peu la situation particulière de la RDC, mais qui est aussi un peu similaire dans d'autres pays de la région.
Alors, professeur, vous êtes coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À ce titre, comment percevez-vous cette question de réfugiés lorsque certains observateurs pensent que certains pays de la sous-région utilisent ce moyen intelligemment pour déverser, permettez-moi le terme, le trop-plein de leurs citoyens dans d'autres pays?
La situation, comme je l'ai dit aussi du Congo, c'est que nous sommes dans des impasses démographiques avec nombreux pays voisins. Les impasses démographiques obligent certains pays qui ont la plus grande densité d'aller dans des espaces qui ont moins de densité. Dans un premier temps, on peut considérer comme des forces productives simples, mais finalement, ça devient des forces sociales, des tensions dans tous ces pays frontaliers. Voilà un peu la situation particulière que nous pouvons... Donc politiquement, je pense que on ne peut pas prendre ces déversements comme une mauvaise intention de l'État, mais prendre les choses sous l'aspect même humanitaire tout court, il y a un dépassement des populations qui se déverse. Mais comment gérer ça? Tout le problème, c'est la gestion de ces populations qui viennent pour des raisons humanitaires ou économiques dans d'autres pays.
Et au niveau de la sous-région, vous pensez que c'est une situation préoccupante, c'est une situation compliquée? Comment vous l'abordez?
Le plus dangereux chez nous, c'est cette institutionnalisation des groupes armés qui, non seulement pour des besoins économiques, sont reliés aux autres réseaux internationaux pour l'exploitation artisanale de matières premières. Et de deux, le réseau, comme j'ai dit, d'incitation permanente à des tensions. C'est pas, cette fois-ci, c'est pour la participation dans des réseaux ou dans les espaces politiques ou les espaces de pouvoir.
Prenons cette réaction qui nous vient de la province orientale pour vous, professeur Banyako.
Michael Carlo Njili à Yakunde, province orientale. Comment peut-on en finir avec le problème des réfugiés alors qu'on a des nombres de réfugiés qui sont rapatriés, on a d'autres qui traversent la frontière pour être des réfugiés? Quand on bouge d'un côté, de l'autre côté, ils sont.
Donc il parle un peu de la porosité de nos frontières. N'est-ce pas un grand problème dans ce sens?
Oui, cette particularité des grands espaces, des grandes étendues, ce n'est pas une particularité pour nous. Ça vaut pour le Soudan, tous les grands États, pour l'Algérie, et même des États les plus avancés comme la Russie, qui connaissent ça. Mais je me dis que l'approche politique, c'est-à-dire l'approche d'une sécurisation, non seulement en termes de frontières, mais en termes des humains. Les gens doivent se sentir un peu plus sécurisés et les aspects humanitaires priment même les aspects purement sécuritaires. Mais ici, là, il se greffe un problème politique où tout le monde veut participer au pouvoir, tout le monde veut attendre, avoir des richesses. Et si vous remarquez bien, la richesse telle qu'elle est concentrée dans certaines parties qui sont en guerre indique que les réseaux ne sont plus tout simplement pour la guerre, mais ils sont pour chercher la recherche d'argent.